C'est bon, tout le monde arrive à trouver une place. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous voir ici ce soir. Mon nom est Catherine Duflo, je suis la présidente de cette association APAISE, dans laquelle figure un certain nombre de personnes. Nous sommes une association qui regroupe des spécialistes certifiés de la santé émotionnelle, aussi bien des praticiens que des médecins, que des thérapeutes. Et c'est aussi cette association APAISE, donc Association Praticiens en Santé Émotionnelle. C'est aussi un espace d'échange, justement, pour entre spécialistes de la santé émotionnelle. Et nous sommes ouverts à toutes les spécialités de la santé émotionnelle, aussi bien la sophrologie que l'hypnose, que le MDR, que Tipeee, pour ceux qui connaissent, MRS, ALP, etc. Pour nous contacter, donc on vous a mis les coordonnées de notre association, aussi bien le site que l'adresse email. Pour certains, je pense que vous avez dû recevoir des petits papillons là à l'entrée, et vous pouvez aussi retrouver les coordonnées de notre association. Je profite aussi de cet instant qui m'est donné pour remercier les organisateurs dans notre association. Ce sont Jacques Fumex et Sophie Testurivière, surtout qui ont coordonné tout ce travail pour vous permettre et nous permettre d'accueillir aujourd'hui Ludwig Janus, donc qui est un éminent médecin, psychologue, psychothérapeute et psychanalyste, qui nous vient d'Allemagne et qui est un éminent spécialiste aussi de la psychologie périnatale, et qui est l'auteur d'environ 25 ouvrages, dont le seul qui a été traduit en français est Introduction à la psychologie périnatale, qui va nous occuper ce soir. Donc ces dernières années, effectivement, tout ce qui est période prénatale, périnatale et néonatale jusqu'à l'âge d'un an sont reconnus comme faisant partie intégrante de notre vie, y compris psychique. En France, on a quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup et qui s'appelle Boris Cyrulnik, pour ceux qui connaissent. Notre biographie commence donc à notre conception et toutes nos expériences s'inscrivent dans nos mémoires, à la fois émotionnelles et sensorielles. Cette conférence va donc résumer tout ce qui est historique de ces recherches et va faire le point des connaissances actuelles. Voilà. Je ne m'étends pas plus que ça. Nous allons avoir deux traductrices qui s'appellent Monica et Natacha, puisque Ludwig est allemand, mais il fait la présentation en anglais ou en allemand ? En allemand. Donc la présentation est en allemand, mais traduite par Monica et par Natacha qui sont ici ce soir. Merci beaucoup. Bonne conférence.
Also ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und Ihnen etwas aus der deutschen Tradition der Erforschung des Lebensanfangs zu berichten. Und ich danke mich sehr für die beiden Dolmetscherinnen, Frau Monika Wilke und Frau Natascha Wittekind, dass Sie mir helfen, dass wir die Sprachbarriere überbrücken.
Je me réjouis beaucoup de vous raconter ce soir quelque chose de nos connaissances actuelles sur l'histoire, l'historique et tout ce qu'on sait actuellement sur la psychologie prénatale. Et je me réjouis aussi beaucoup d'avoir les deux traductrices, donc moi-même et Natacha, qui vont vous aider à comprendre. Donc moi, je vais vous traduire, même je suis allemande, je vais vous traduire en français. Et Natacha, elle va pour le moment traduire à Ludwig Janus en allemand, et comme ça, on arrivera, si on ne parle pas trop rapidement, de faire cette soirée ensemble.
Also die Erlebnisbedeutung vorgeburtlicher und geburtlicher Erfahrungen ist in der Psychotherapie entdeckt worden.
Donc,
in der Psychotherapie.
Tout ce qu'on a vécu, on a trouvé dans la psychothérapie du vécu prénatal.
Aber die pränatale Psychologie hat auch eine kulturpsychologische Bedeutung.
Mais la psychologie prénatale a aussi une importance culturelle, psychologique et culturelle.
Wir haben ja aus unserer christlichen Religion die Überzeugung, dass wir in himmlischen Sphären geschaffen worden sind von einem himmlischen Wesen, das uns dann in etwas schwieriger Weise auf die Welt befördert hat.
Dans notre tradition chrétienne, nous avons la croyance qu'il y a un être céleste qui nous a créés et qui nous a mis au monde en venant du ciel.
Also das heißt, in früheren Zeiten waren wir der Überzeugung, wir kommen aus einem Jenseits in ein Diesseits. Aber es war ein allgemeiner Glaube, es war ein höheres Wesen, das das gemacht hat.
Donc on avait la croyance qu'en venant d'un au-delà, dans, ici dans ce monde réel, mais on avait la croyance que c'est un être céleste qui fait tout cela.
Und die pränatale Psychologie ist der Meinung, dass dieses höhere Wesen nicht ein männlicher Gott war, sondern eine irdische Mutter.
Et donc la psychologie prénatale est à la
connaissance au fait que il n'y avait pas qu'un père divin, mais qu'il y avait aussi une mère en chair et en os.
Also dass ich in einer Mutter gewachsen bin und dann von ihr mit ihr zusammen mich in die Welt begeben habe, aus donc, einem Jenseits in ein Diesseits.
Donc moi je suis j'ai grandi dans le ventre d'une maman, d'une mère, et que je suis venu quand même d'un être céleste dans ce monde ici.
Also es ist mein Weg, den ich genommen habe aus dem Jenseits ins Diesseits.
Alors c'est mon propre chemin en fait à travers le ventre de ma mère en venant de l'au-delà finalement en venant d'ailleurs pour venir sur ce monde.
Und diese Zusammenhänge sind erst im letzten Jahrhundert verstanden worden.
Et on a compris ces connaissances-là, on les a comprises sur le siècle en arrière.
Insbesondere in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts.
Plus particulièrement la deuxième moitié du deuxième centenaire, du dernier centenaire.
Pardon. Und ein Zugang war das Mittel LSD.
Ah oui, et puis un des moyens très importants à la compréhension a été le LSD.
Wenn man LSD nimmt,
quand on prend du LSD,
kommen vorsprachliche Erfahrungen ins Bewusstsein in einer bildhaften Weise.
Il y a des connaissances de prélangage et de la prénatalité qui viennent à la conscience. Est-ce que tout le monde entend?
Un moment. Ja. Das ist eine gute pränatale Erfahrung in der Widerspiegelung einer LSD-Erfahrung.
Là, il s'agit d'une très bonne expérience de prélangage qui a été permis grâce au LSD.
Eine himmlische Erfahrung. Da war die Mutter ein Himmel.
C'est une expérience céleste où la mère est le ciel.
Und das ist die Widerspiegelung schlechter vorgeburtlicher Erfahrungen im LSD-Erleben. Ist eine Art Traumerleben.
Et ça, c'est le reflet d'une mauvaise expérience aussi à l'occasion d'une prise de LSD.
Ja. Und dieses Bild eines Heidelberger Malers zeigt diesen Zusammenhang, die vorgeburtliche Erfahrung mit der Plazenta.
Et ça, c'est une peinture d'un artiste de Heidelberg qui représente le rapport qu'il peut y avoir entre cette expérience céleste et l'expérience réelle.
Und dass wir dann Bäume wie magische Tree of Life erleben können.
Und in diesem Fall können wir als Ah, pardon, merci. Excusez-moi, je n'ai pas du tout l'habitude. Hein, donc,
Bäume alors, uns Kraft geben.
C'est à cette occasion, en fait, que l'on peut, on peut utiliser l'arbre et représente cette force magique, finalement, de naissance.
Und das ist in der biblischen Darstellung des Paradieses.
Et ça, c'est une représentation biblique du paradis.
Sie sehen der Baum ist wie eine Nabelschnur gezeichnet.
Là, vous voyez que l'arbre a été représenté exactement comme un cordon ombilical.
Also da steht der Gedanke, dass das Kind vor der Geburt die Nabelschnur genau gespürt hat und gefühlt hat.
Et c'est de là qu'on pense que sort l'idée que déjà l'enfant sentait parfaitement bien le cordon ombilical bien avant la naissance.
Und dass darum den Stamm so gemalt hat.
Et c'est pour cela que l'artiste a dessiné le tronc de l'arbre de cette façon.
Und das ist ein Bild aus der Alchemie im 15. Jahrhundert.
Alors ça c'est une image qui alchimique du 16e siècle.
Und das zeigt, dass wir zwei Erfahrungen von der Mutter haben, die Höhlenmutter, die vorgeburtliche Mutter und die Brustmutter, die postnatale Mutter.
Et là ça représente le fait que nous avons deux expériences différentes de la mère, qui est la mère prénatale et la mère postnatale.
Das ist eine beginnende Reflexion.
C'est un début de réflexion sur le thème.
In dem mittelalterlichen Bild ist es eine kollektiver Traum.
Ça représente un rêve collectif. Und de Moyen Âge.
Im 16. Jahrhundert beginnt eine Reflexion auf der Bildebene.
Et c'est au 16e siècle au fait qu'on commence à refléter cela sur des images. Qu'on retrouve sur des images.
Und das ist jetzt ein Sprung ins 20. Jahrhundert.
Ah, et là on fait un saut dans le 20e siècle.
Das ist ein Bild von Munch, die Madonna.
C'est la Madonna de Munch.
Ist Munch.
Munch.
Sie sehen,
Munch.
Der pränatale Munch. Und für die
pränatal.
Ja. Die Mutter hatte eine Tuberkulose und es war die dritte Schwangerschaft und es bedrohte sie mit dem Tode.
Sa mère avait la tuberculose et lors de sa troisième grossesse, elle était en danger de mort.
Darum war die Mutter in einer Art Depression.
La mère était dépressive, dans une sorte
und
de Depression.
Entsprechend schwierig ging es dem kleinen Munch.
Et du coup, son fils, le petit Munch, était pas en bonne forme non plus.
Und er hat ein wechselvolles Leben zwischen Psychiatrien und seiner Staffelei geführt.
L'artiste a une vie en alternance entre la psychiatrie et l'art et sa vie d'artiste.
Und hat dann wieder seine tiefen Empfindungen auf die Bildebene gehoben.
Et il a transposé ses sensations profondes, ses sentiments profonds sur l'image, sur le support artistique.
Und entdeckt worden sind diese Zusammenhänge an den traumatischen Geschehnissen, weil diese sich scharf abbilden.
Et on a découvert oui ce contexte à travers les représentations traumatiques.
Die Entdeckung der Erlebniszusammenhänge hat sich an traumatischen Elementen vollzogen, weil die sich scharf abbilden.
Ja. Man hat also die Entdeckung gemacht, dass es ein... On a fait le... on a découvert la découverte est due au fait traumatique parce que c'était remarquable. On pouvait voir que quand il y avait un traumatisme, on pouvait faire des recoupements. Ja. Et c'est comme ça qu'on a fait les découvertes et les liens. Des liens.
Und wenn ich so eine schwere Zeit vor der Geburt habe.
Alors, si j'ai eu une vie prénatale vraiment compliquée, aussi difficile,
dann wird die Geburt zu einem Schrecken.
La naissance est l'horreur aussi.
Und das hat gemalt, das ist ein gemalter, eine Halluzination.
Et ça, c'est une peinture d'une hallucination qu'il avait.
Die ganze, er ist spazieren gegangen und abends und die ganze Welt war von Blut umflossen und ein riesiger Schrei ging durch die Welt.
Un soir lors d'une promenade, il a vu du sang couler de partout autour de tout le monde et la vie n'était qu'horreur quoi autour de lui. Et cette peinture représente cette vision.
Und das ist ein Jahrhundertbild. Jeder kennt das Bild.
Tout le monde connaît cette peinture et c'est quelque chose qui a marqué notre siècle.
Aber niemand stellt den Kontakt zu sich her.
Mais on ne fait pas forcément la relation avec soi.
C'est der Schrei von Herrn Munk, nicht mein Schrei.
C'est le cri, parce que c'est le cri de Munk, c'est pas forcément le mien, d'accord, c'est personnel.
Aber ich bin vielleicht auch mit einem Schrei auf die Welt gekommen.
Mais peut-être que moi aussi je suis née avec un cri.
Ja, das war's schon. Die können dann ausmachen, dass die Projektion. Also das war mein Bedürfnis, Ihnen diese kulturpsychologischen Zusammenhänge an den Bildern zu zeigen. Wir können das ganz ausmachen, wenn es geht, oder?
Ja. C'était mon besoin, mon envie de vous montrer ces images en préambule à la psychologie prénatale et l'aspect culturel surtout, qu'on voit que ça a eu une influence sur la culture et l'art.
Also die Entdeckung dieser Zusammenhänge erfolgte auf einer verbalen Weise Ebene. Im Rahmen der Psychoanalyse.
La découverte de ces contextes arrivait à travers les mots, à travers un contexte verbal dans la psychoanalyse.
Und Freud und sein Schüler Rank hatten die Beobachtung gemacht.
Et son disciple Otto Rank avait fait la découverte.
Dass am Ende der Behandlung Geburtsfantasien bei den Patienten auftauchten.
À la fin d'une thérapie, leurs patients avaient des hallucinations et des rêves par rapport à leur naissance.
Also, dass der Patient das Ende der Behandlung wie eine Geburt erlebte.
Ce qui veut dire que à la fin de leur thérapie, ils avaient l'impression, ils ont vécu ça comme une naissance.
Und Freud hatte war der Meinung, es sind Fantasien über die Geburt.
Mais Sigmund Freud avait l'avis que c'était des rêves seulement au sujet de la naissance, pas de des hallucinations sur au sujet des naissances, mais pas sur leur propre naissance.
Und Rank war der Meinung, es sind reale Geburtsempfindungen, die bei dem Übergang von der Therapie in die reale Welt aktiviert werden.
Mais son disciple Otto Rank, contrairement à ce que pensait Sigmund Freud, avait l'impression qu'il ne s'agit pas vraiment des naissances au général, d'un sujet de naissance générale, mais que les patients, à la fin de la thérapie, avaient un vécu eux-mêmes de leur naissance en passant après la thérapie dans la vie réelle à nouveau.
Und dieser Übergang kann traumatisch erlebt werden. Darum heißt sein Buch das Trauma der Geburt.
Et donc ces passages-là peuvent être vécus comme un traumatisme et c'est pour ça que Otto Rank a nommé son livre le traumatisme de la naissance.
Und aber heute würde man, das war eben, weil sich das scharf abgebildet hat, das Traumatische. Heute würde man sagen, die Geburt ist ein Abenteuer. Also er hat die traumatische Seite.
C'était parce que à l'époque on était dans le traumatisme et il y avait des images très fortes. Aujourd'hui, on dirait que la naissance est une aventure.
Ja. Die Geburt ist auch, kann man sagen, eine Heldenfahrt.
C'est même un voyage, le voyage d'un héros.
Wir kommen von einer Welt in eine andere Welt.
Nous passons d'un monde à un autre.
Und wenn wir das schaffen, sind wir Helden.
Et lorsque nous réussissons cela, nous sommes des héros.
Also eine gelingende Geburt kann für die Mutter auch und für das Kind eine große Kraftquelle sein.
Une naissance réussie peut aussi être une énorme force, une source de puissance pour la mère également.
Und darum ist es so bedeutsam, Mütter in der Schwangerschaft zu unterstützen.
C'est pour cela qu'il est tellement important de soutenir les mères dans leur maternité.
Und dass die Gesellschaft Geburt, Schwangerschaft so wichtig nimmt, wie sie ist.
Et que la société reconnaisse l'importance réelle de la grossesse et de la naissance vraiment l'importance qu'elle a vraiment, quoi.
Es kommt nun eine zweite Sache hinzu, dass die menschliche Geburt Besonderheiten hat.
La deuxième chose, c'est que la naissance humaine est entourée de particularités.
Und zwar werden wir 12 Monate zu früh geboren.
En fait, nous sommes nés 12 mois trop tôt. Nous naissons 12 mois plus tôt, trop tôt.
Kleine Elefanten werden mit 21 Monaten geboren und das wäre auch die Zeit, die ein Kind bräuchte, um reif zu sein für die Welt.
Chez les éléphants, par exemple, les petits, ils sont portés 21 mois. Et en toute logique, c'est sans doute ce qu'il faudrait aussi à l'humain, c'est ce temps-là qu'il faudrait aussi à l'humain pour qu'il soit à un stade de développement suffisant pour sortir du ventre de sa mère.
Das Problem war, die Menschen haben sich auf die Hinterbeine gestellt.
Mais comme les humains se sont relevés sur leurs jambes,
um gehen zu können, brauchten die Frauen einen festen Beckenring.
Pour que les femmes puissent marcher, elles avaient besoin de renforcer leur bassin.
Dann kam das Hirnwachstum,
comme un anneau,
dazu. Und der Kompromiss war statt 21 Monate 9 Monate.
Alors il y a eu un compromis puisque pour que la tête du bébé passe, ben, au lieu de 21, on a tombé à 9 mois.
Das ist ein ganz grundsätzlicher Zusammenhang. Wir kommen unfertig zur Welt.
Donc c'est une des circonstances très très particulières. En fait, nous naissons sans être tout à fait prêts.
Wie Sie alle wissen.
Comme nous le savons tous, oui.
Also ein Baby kann sich kaum bewegen, ein kleiner Elefant läuft durch die Gegend.
Un bébé ne peut pas bouger tout seul, tandis qu'un petit éléphant, quand il naît, il peut déjà marcher.
Nicht nur der frontale Cortex ist unreif, auch der Hippocampus.
Non seulement le cortex frontal n'est pas mûr, mais aussi l'hippocampe.
Ein Baby kann sich darum nicht räumlich orientieren, nicht innen oder außen.
Un bébé est incapable de s'orienter seul, ni à l'intérieur, ni vers l'extérieur.
Es lebt darum in einem traumartigen Bewusstsein.
C'est pour ça que le bébé vit dans une sorte de conscience de rêve, rêvée, une conscience rêvée.
In einer mystischen Verbindung mit diesem göttlichen Wesen der Mutter und des Vaters.
Dans un lien mythique, un peu une relation mythique entre la mère et l'être céleste.
Das ist die Welt der antiken Kulturen mit ihren Mythologien und ihren Göttern auf dem Olymp, die aber alles bestimmen. Und wir müssen beten und Opfer bringen, damit die Götter uns gnädig sind. Das ist die Situation des Babys.
Le bébé est dans la même situation que les êtres dans la mythologie grecque qui sont un peu à la rencontre du ciel et de la terre et qui doivent donner sur l'Olympe, il y a les dieux et en bas le peuple doit donner des offrandes pour accéder au divin. À la clairvoyance du divin.
In den davorliegenden Stammeskulturen haben wir noch in kleinen Gruppen gelebt und die ganze Welt wie ein Mutterleib erlebt.
Avant, nous vivions encore dans des tribus. Et
in den Stammeskulturen haben wir die ganze Welt wie ein Lebewesen, wie ein Mutterleib erlebt.
En fait, on vivait le groupe un peu comme le ventre de la mère.
Und die Kraft zum Leben kam nicht mehr aus der Plazenta, sondern aus dem Totem.
Et la force pour vivre était prélevée du totem plutôt que du placenta de la mère. Le totem prenait la place du placenta de la mère.
Und später kam dann die Kraft von den Päpsten und den Kaisern und den Königen.
Plus tard, c'est la puissance des papes et des empereurs et des rois qui a pris la suite.
Und die Menschen lebten eigentlich in einer Art Babyabhängigkeit.
Et toutes les personnes restaient toujours dans une sorte de dépendance de bébé infantile, voilà.
Und die große Veränderung, und das, die geschah ja in Frankreich, war die Französische Revolution.
Et le grand changement qui s'est produit en France, d'ailleurs, c'était la Révolution.
Dass die Verantwortung nicht mehr bei Gott liegt oder beim König,
la responsabilité
sondern bei uns.
N'appartient plus ni à l'empereur, ni au roi, ni à Dieu, mais elle nous appartient.
Der deutsche Dichter Der deutsche Dichter Schiller hat gesagt,
le poète allemand Schiller,
wenn du die Gottheit in deinen Willen aufnimmst, steigt sie von ihrem Weltenthron.
si tu prends la volonté divine en toi,
wenn du die Gottheit an deinen Willen aufnimmst, steigt sie von ihrem Weltenthron. Also wenn ich selber, wenn ich nicht mehr an den König glaube, dann kann ich in den König in mir sehe, dann werde ich der König meines Lebens.
Ah, okay. Ça c'est plus facile. Alors, si je ne vois plus le roi à l'extérieur, mais en moi, je deviens le roi de ma vie.
Shakespeare hatte es schon früher gesagt in dem
Shakespeare Stück, a déjà dit ça bien plus tôt.
In dem Stück César.
Dans une pièce nommée César.
Da sagt Cassius zu Brutus: It's not in the stars, it's in us.
Cassius qui dit à Brutus, ce n'est pas dans les étoiles, mais c'est en nous.
Und das ist der Beginn der modernen Zeit, dass wir selbst uns bestimmen.
C'est le début des temps modernes où nous prenons les décisions pour nous-mêmes, où nous prenons la responsabilité pour nous-mêmes.
Und gleichzeitig ist es der Beginn der persönlichen Liebe zwischen den Geschlechtern.
En même temps, c'est aussi le début de l'amour personnel entre les sexes.
Vor dem liebte man Gott. Gott liebte einen. Gott gab einem Schutz.
Avant, on aimait Dieu. Dieu nous aimait. Dieu nous protégeait.
Liebesbeziehungen gab es nicht. Man wurde verheiratet, wie es sozial passte.
Il n'y avait pas de relation amoureuse d'amour. Il y avait les mariages arrangés.
Und die Schwierigkeiten, die dann auftreten, wenn man sein Leben auf Liebesbeziehungen aufbaut.
Et les difficultés qui démarrent lorsque on sculpte sa vie autour d'une vie amoureuse,
sind in den Romanen des 19. Jahrhunderts geschildert.
Sont représentés, décrits, oui, dans les romans du 19e siècle.
Balzac, Flaubert,
Madame Bovary.
In Deutschland Effi Briest.
En Allemagne Effi Briest, une auteure.
In Russland Anna Karenina.
Anna Karenina, en Russie.
Die Liebe ist ein tödliches Unternehmen.
L'amour est une entreprise mortelle.
Aber dann kam ja der Herr Freud.
Mais après il y a Freud qui est arrivé.
Und half, dass wir nicht dann nur die Dichter fragen, wie wir leben sollen.
Qui a aidé au fait qu'on ne pouvait, on n'était plus, on n'avait plus besoin de demander seulement aux poètes.
Sondern wir fragen uns selbst.
Mais nous pouvons aussi nous poser des questions à nous-mêmes.
Und das ist das Projekt, in dem wir stehen.
Et ça c'est le projet dans lequel nous sommes encore aujourd'hui.
Und das ist zunächst die Frage, die Kindergefühle, was machen meine Kindererfahrungen mit mir?
Et en premier, on se pose la question des enfants, de nos enfants. nos expériences à nous en tant qu'enfants, comment cela a une influence sur ma vie.
Und dann die Säuglingserfahrungen.
Et puis ensuite, bien sûr, le nouveau-né, nos expériences en tant que nouveau-né.
Und dann auch noch die Erfahrungen der vor der Geburt.
Et puis, bien sûr, encore les expériences avant notre naissance.
Ja. Und dann kommt, also ich denke, dass wir haben, glaube ich, zwei Stunden Zeit.
Je pense que nous avons environ deux heures de temps.
Dass ich noch 20 Minuten, also insgesamt eine Stunde, rede und dass wir dann Zeit haben für Fragen oder Kommentare.
Je vais encore parler 20 minutes, une heure. Ensuite, vous aurez du temps pour poser des questions.
Denn wir haben noch ein weiteres Problem.
Nous avons une difficulté supplémentaire.
Das speziell vielleicht für einige von Ihnen, die sich mit
qui est peut-être spécialement vrai pour certains de vous qui se
einige von Ihnen, die sich mit
MRS, MRS pour ceux MRS, qui travaillent avec MRS par exemple, qui sera
und,
vraiment intéressant pour ceux qui sont
ist unser Hirn aus drei Teilen zusammengesetzt.
Notre cerveau est composé de trois morceaux, trois pièces.
Das Stammhirn, das die Frösche gefunden haben.
Reptilien. Le cerveau reptilien qu'avaient les grenouilles, par exemple, ont les grenouilles.
Das emotionale
le cerveau émotionnel, comme on appelle le limbique.
Und das Stammhirn und das Emotionshirn.
Ich habe nicht mitbekommen, nach dem, was haben Sie nach Emotionshirn gesagt?
Von den doch Säugetieren.
Die Säugetiere haben in der Säugetierebene haben sich die Mittelhirn, das Gefühlshirn entwickelt.
C'est le cerveau qui est responsable pour les sentiments, pour les émotions, et c'est chez les mammifères qu'il a essayé de développer. Limbique, oui.
Und darüber ist in evolutionär kurzer Zeit das Großhirn herübergeklappt worden.
Et ensuite, c'est par-dessus au fait que le néocortex, il a été, il s'est développé par-dessus les deux autres.
Und das kann dazu führen, dass das Stammhirn, Mittelhirn intensive Gefühle hat.
Ça peut, alors il peut arriver que dans le cerveau reptilien et dans le cerveau limbique, il y ait des sentiments, und, très, émotions très fortes.
Und das Großhirn weiß gar nicht,
et le néocortex, il comprend rien à tout ça. Il ne sait
und
pas
dann
pourquoi.
Kann man dieses MRS.
Et c'est à ce moment-là que MRS et les résiliations émotionnelles ou régulations émotionnelles sont importantes.
Also ich nehme jetzt ein Beispiel, eine Tunnelangst.
Si par exemple j'ai peur de passer dans un tunnel.
Es gibt Menschen, die Ängste in Tunneln haben.
Il y a des personnes qui ont très très peur d'être dans un tunnel.
Das kann den Hintergrund haben, dass der Betreffende bei der Geburt stecken geblieben ist und in einer Panik.
Il se peut que ça soit occasionné par le fait que cette personne était coincée au moment de la naissance.
Wenn er dann danach sehr günstige Bedingungen hat.
Si après cette même personne a des conditions de vie très favorables.
Und einen Kinderspielplatz hat, wo vielleicht ein Tunnel ist, wo er
peut-être,
durch Tunnel
il va avoir
durchgehen kann.
Une place pour de jeux où il y aura des tunnels où il va pouvoir expérimenter, où il va pouvoir traverser.
Oder er hat ein Erlebnisschwimmbad, wo
il va peut-être avoir une piscine où il y a des toboggans avec des tunnels.
So dass er erlebt, der Tunnel ist gar nicht so gefährlich.
Oui, ich kann
mich dahin durchbewegen.
Que, en fait, ce tunnel, au final, ça n'est pas si dangereux. Je peux m'aventurer à travers.
Und dann kann er im späteren Leben
et
den
là,
Tunnel,
dans sa vie future, les tunnels
und seine Geburtserfahrung auseinanderhalten.
Et son expérience de naissance vont être séparées. Il va pouvoir bien vivre le tunnel.
Wenn er aber ungünstige Bedingungen hatte,
si par contre les conditions de vie en tant qu'enfant ne sont pas favorables, sont défavorables,
also dass die Eltern, sich nach der
que
Geburt
les parents peut-être
haben,
se séparent juste après la naissance,
er weggegeben worden ist, oder sie weggegeben worden
il y a rupture avec les parents,
dann konnte er diese
alors,
Primärangst,
il ne peut pas gérer cette peur primaire.
Konnte er nicht in Spielen
il ne peut pas la transformer dans des jeux. Il ne peut pas la transformer dans des jeux, oui.
Ja. diese das benennt die Situation, dass wir die Erfahrungen vor und während der Geburt überwiegend mit dem Stammhirn und mit dem Mittelhirn machen, vorsprachlich.
C'est ça qui montre que les expériences de naissance sont vécues surtout avec le cerveau reptilien et limbique.
Also die sind auf der tiefen Ebene gespeichert.
Ils sont vraiment mémorisés dans ce niveau très profond.
Panique oder Unruhe und so weiter.
Et c'est vrai pour les paniques et pour les inquiétudes et les peurs.
Und dann können sie später in Stresssituationen durchbrechen.
Alors plus tard, ces mémoires peuvent réapparaître dans des moments de stress, dans des situations très stressantes.
Typischerweise bei Examen.
Typiquement, quand il y a des examens.
Und Prüfungen.
Quand il y a.
Wenn es darauf ankommt, sich zu bewähren.
Des épreuves, à chaque fois qu'il faut en fait prouver quelque chose.
Und aber auch Menschen, die also auf der Ebene Ängste gehabt haben, die können als Kinder können sie dann Dunkelängste
aussi,
haben.
Aussi les humains qui ont eu ce genre de peur prénatale peuvent avoir des peurs du noir.
Oder Angst in so einem Raum zu sitzen.
Ou claustrophobie ou être dans un espace restreint.
Und da kann eben MRS und andere
et là, sein. Les aides telles que MRS existent. Tout ce qui est résiliation ou régulation émotionnelle.
Solche Verknüpfungen aufzulösen.
C'est là que ça, on peut aider à dénouer ces problématiques.
Ein besonderes, besonders dramatisches Feld natürlich.
Ce qui est particulièrement dramatique.
Sind Mann-Frau-Beziehungen.
Ce sont les rapports entre hommes et femmes.
Also dass gerade die Liebesbeziehung, weil
Parce
sie so
que,
tief geht.
Justement la relation amoureuse, parce qu'elle va tellement en profondeur.
Solche alten Ängste und Unwohlsein aus der vorsprachlichen Ebene wecken kann.
Peur de la période du prélangage, elles peuvent renaître, être réveillées parce que ces relations-là, elles sont très profondes, ils vont les chercher.
Das ist dann die im 19. Jahrhundert die femme fatale.
Dans le 19e siècle, c'est ce qu'on appelait la femme fatale.
Oder die Spaltung, dass die Frau die Madonna war und gleichzeitig die Mutter und man zwei Beziehungen hatte.
Ce paradoxe que la femme était à la fois la Madone et la putain.
Also das ist jetzt vom Mann aus gesehen.
Dans la vision de l'homme. L'homme ou humain?
L'homme, ja.
Oui, l'homme,
und,
pardon. L'homme sagen masculin.
Noch, das ist ja kein Phänomen der Vergangenheit, sondern noch ganz gegenwärtig.
Ce n'est même pas un phénomène du passé, mais c'est malheureusement toujours un peu présent.
Also es können in Paarbeziehungen unglaubliche Ängste, aus dieser frühen Zeit, die vorsprachlich sind und nicht eingeordnet werden.
Ça peut réveiller des peurs vraiment très anciennes, du temps prénatal, voilà, jusqu'à aujourd'hui.
Ja, das nicht. Also noch der C.G. Jung, dieser berühmte Psychoanalytiker, hat mit zwei Frauen gelebt. Einer Madonna-Frau
Jung
und einer erotischen
Frau. Deux hommes, une femme qui était comme une Madone et une qui était très érotisante.
Aber nicht nur C.G. Jung, sondern auch nicht, einige
oui,
pas
seulement
Franzosen,
lui, mais aussi plusieurs Français très célèbres.
Ja. ja. Also darum ist es sehr bedeutsam, sich über diese Zusammenhänge klar zu werden.
De se rendre compte de ces liens. prénataux.
Un berühmter Filmregisseur, der das
geschildert hat, de film français célèbre,
war Ingmar Bergman.
Ingmar Bergman.
Ein Schwede, die Älteren von Ihnen kennen vielleicht noch die schrecklichen Filme von Ingmar Bergman.
Peut-être que quelques-uns parmi vous connaissent encore les films
über die,
assez
über die
horrible de
wie schrecklich Mann-Frau-Beziehungen.
Comment les relations entre hommes et femmes pouvaient être horribles, délétères.
Und die Situation, die
La
Mutter von Bergman war eine großbürgerliche Dame.
Qui explique, c'est que la mère de Bergman était une dame bourgeoise.
Und der Vater war ein Hafenarbeiter.
Et le père était un travailleur dans les ports. Il travaillait dans un port.
Und ähnlich wie bei Romeo und Julia, die Familie, die konnte nicht zusammenkommen.
Et un peu comme Romeo et Juliette, c'était une incapacité pour les deux familles de se rejoindre.
Also eine Ehebeziehung von Angst, Verzweiflung, Wut.
Donc c'était vraiment un rapport de ce mariage était plein de conflits, de peur et d'impossibilité.
Und der kleine Bergmann hat das
et le petit
seine
Bergmann,
Welt.
C'était son monde à lui.
Und er hatte eine unglaubliche Angst.
Et il avait une peur incroyable.
Er war Theaterdirektor in Malmö.
Il était directeur de théâtre à Malmö.
Und hat er gesagt, ich werde nur Theaterdirektor, wenn alle 10 Meter.
Je ne serai que directeur de théâtre si tous les 10 mètres.
Eine Toilette ist.
Vous mettez des toilettes.
Weil er ein Imperativ.
Parce que il avait des selles impératives.
Das ist das einzige Theater in der Welt, das alle 10 Meter eine
Donc
Toilette
c'est le
hat.
Seul théâtre du monde où il y a tous les 10 mètres des toilettes.
Also die Ängste, die aus dieser
Alors tiefen vous voyez les peurs qui viennent de ces profondeurs
rein,
qui entrent dans les relations.
Die Dramatik,
quel drame peuvent sortir de là.
Ja. Diese Pränatalthemen,
ces thèmes prénataux
sind in der Kunst auch sehr
sont aussi très représentés dans l'art.
Zum Beispiel,
par exemple,
Sie kennen den Dichter Samuel Beckett.
Le poète Beckett, Samuel Beckett.
Alle Beckettschen Helden kommen in die Welt.
Tous les héros de Beckett viennent au monde.
Und finden niemand, keine
et
Mutter.
Ne trouvent personne, pas de mère.
Und die gehen dann in einen Mülleimer
ils
oder
vont
in
aller
einen Sandberg,
dans les poubelles
um
ou
in einen Mülleimer gehen sie, also sie versuchen sich zu verstecken in einem Schaukelstuhl
ja, parce oder ils essaient du coup de se cacher quelque part cacher dans une poubelle par exemple quelque part où on les trouvera pas.
Also ich habe das in dem Buch geschildert im Einzelnen.
Ça c'est quelque chose qui est décrit dans le livre qui a été traduit en français.
Dasselbe gilt für Dali.
C'est vrai aussi pour Dali, pour le peintre.
Dali war ein Ersatzkind für einen gestorbenen Bruder.
Il a été un enfant de remplacement pour un frère qui était mort-né.
Und die Mutter war die ganze Schwangerschaft, so erzählt er es in seiner Autobiographie.
La mère pendant toute sa grossesse, ce qu'il raconte dans sa autobiographie,
in einer schweren Depression.
A été dans une Depression énorme.
Und die vorgeburtliche Zeit, sagt er, war für mich eine Hölle.
Et il a dit que pour lui, la période prénatale, c'était l'enfer. C'était
und diese enfer. Hölle und Entfremdung et hat er in seinen Bildern gemalt.
Et cet enfer et cette oui, il l'a représenté dans son art, dans ses images.
Und die Leute haben gesagt, er ist ein Surrealist.
Et les hommes ont dit, c'est un surréaliste.
Er hat gesagt, ich bin ein Hyperrealist.
Il a dit, je suis hyperréaliste, pas surréaliste.
Das ist sehr merkwürdig, wir verleugnen das.
Ça, c'est quelque chose que verleugnen.
Verleugnen, deny.
Nous le nions, c'est quelque chose que nous nions.
Also es gibt Ausstellungen von Dali und niemand berichtet die Dinge, die Dali selber berichtet hat.
Il y a des expositions de Dali, mais personne ne reporte ses propres paroles, en fait.
Gut, also in vielen Filmen wird es
dans beaucoup de films,
ja, ist diese Thematik zum Beispiel, Sie kennen den Film Matrix.
Cette thématique, comme dans Matrix, par exemple, on trouve aussi cette
das
thématique.
Ist über eine Kaiserschnittgeburt die, und gleichzeitig Frühgeburt.
C'est lors d'une césarienne et une césarienne d'un enfant né avant terme.
Wenn sie Frühgeburt sind,
quand on est né avant terme,
konnten sie ab den 70er Jahren überleben.
On pouvait survivre à partir des années 17.
Aber 19, in einer Blech,
pardon, 1970.
In einer Blechkiste.
Mais on vous mettait dans un incubateur, dans une boîte en métal.
Also, sie lebten in einer Maschine.
Alors, vous viviez dans une machine.
Und die Mythologie in Matrix ist, dass die Maschinen übermächtig sind
dans Matrix,
und mir die Kraft nehmen.
C'est l'histoire, la mythologie, le mythe, c'est les machines qui deviennent surpuissantes et qui me prennent ma force.
Und das ist dasselbe,
c'est le même thème.
Was das Kind im Inkubator erlebt.
Das ist genau das, was das Kind, c'est exactement cela que l'enfant vit dans l'incubateur, au fait.
Oder auch der Film E.T., den Sie vielleicht
ou même E.T., le film E.T. représente
da ist eine Familienkrise.
Une crise familiale.
Und dann kommt ein jenseitiges Wesen,
un être qui vient de d'ailleurs, un extraterrestre.
E.T., also er findet wieder Kontakt zu seiner vorgeburten Plazenta.
Il retrouve en fait la trace de son placenta, il retrouve la place de son histoire.
Und der Film geht dann darüber, dass er dann wieder getrennt werden muss.
Ensuite, il y aura de nouveau une séparation entre E.T. et cette famille dans le film.
Und der Spielberg hat es dann so gemacht, dass alles gut endet, der Vater wiederkommt, wie die Familienkrise zu Ende.
Spielberg, il a fait en sorte que tout se termine bien et que le père revienne et que la famille soit de nouveau unie.
Aber er hat parallel einen Film gedreht.
Mais en parallèle, il a tourné un autre film.
Poltergeist.
Qui s'appelle Poltergeist.
Da geht es um prä- und perinatalen Schrecken.
Et là, il tourne autour des horreurs de la prénatalité.
Und man hat Spielberg gefragt, haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie in dem einen Film...
On a demandé à Spielberg, s'il avait remarqué que dans un film...
Die Kräfte zeigen,
il montrait les forces qui émergent...
Bezug zur vorgeburtlichen Zeit.
De la période prénatale.
Und in dem anderen
et
Film,
dans l'autre film
zeigen Sie die Schrecken.
Il montre les horreurs de cette période.
Und er hat gesagt, nein, das
il
hat
a dit
er
non.
Nicht gewusst.
Je ne le savais pas.
Aber es würde ihm sofort einleuchten.
Mais qu'il le comprend tout de suite. C'est logique pour lui, quand on le lui dit.
Also, das sollte irgendwie die Zusammenhänge illustrieren.
Tout cela devrait illustrer les rapports entre...
Also, und Anregungen geben, die Beziehung zu sich selber herzustellen.
Oui, ça doit donner envie, un encouragement... de faire les connexions pour soi-même.
Und was ist die Folge? Ich soll Monika Wilkant soll eine Botschaft am Ende sagen.
qu'est-ce qui suivra? Quelle va être la suite? Quel est le message pour vous? D'accord.
Also meine Botschaft ist in zwei Botschaften. Man
il y a deux messages.
Ein Drittel in der Schulzeit sich mit seinem Lebensentwurf
on devrait s'occuper pendant un tiers de sa vie scolaire, de son
also,
projet de vie.
Wie will ich Vater sein? Wie will ich Mutter sein?
Comment je veux être père ou comment je veux être en tant que mère de mes propres enfants?
Wie will ich meine Partnerbeziehung leben?
Comment je veux vivre ma vie de couple?
Will ich eine Familie gründen und so weiter?
Est-ce que je veux fonder une famille, etc.
Alles, was heute möglich ist.
Tout ce qui est possible aujourd'hui.
Früher wurde man als Knecht geblogen und starb als Knecht.
Autrefois, quand on naissait comme un valet, on devait mourir aussi comme un valet.
Aber man muss hier mehrere Jahre darüber nachdenken, sich damit beschäftigen.
Mais il s'agit de vraiment réfléchir se questionner pendant quelques années. Pendant plusieurs années sur ce sujet-là.
Wie will ich Konflikte lösen und so weiter. Heute ist das Wissen dazu da.
Comment je veux résoudre des conflits. Aujourd'hui, nous avons les connaissances pour tout cela.
Ja, die zweite Botschaft wäre das.
Le deuxième message, c'est
das haben zwei Ungarn erfunden.
Ce sont deux Hongrois qui ont inventé cela.
Das nennt sich Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung.
Cela s'appelle encouragement au lien prénatal entre la mère et son enfant.
Also die werdende Mutter kommt einmal zu dem.
C'est une mère qui est enceinte, elle va venir une fois chez un praticien qui s'occupe d'établir ce lien, de soutenir ce lien.
Comme
autonomie, par exemple.
Ja, ermutigt sie eigentlich nur, Kontakt zu ihrem Kind zu bekommen.
Et il va simplement encourager la mère à trouver ce contact, à établir ce contact avec son enfant.
Und wir haben Bücher dazu gemacht und Tagungen dazu gemacht.
Il y a des livres à ce sujet, il y a des congrès à ce sujet que nous avons fait.
Und die Ergebnisse sind ganz erstaunlich.
Et les résultats sont absolument incroyables.
Weil das Kind, was vorher gespürt ist, Gefühl kann sich selber fühlen.
Un enfant qui a été ressenti par la mère peut après la naissance se ressentir.
Und dann kann eben die Geburt zum Abenteuer oder zur Heldenfahrt werden.
Et c'est exactement là que la naissance, elle peut devenir une aventure, une réelle aventure et ce fameux voyage des héros.
Diese Kinder haben eine ganz erstaunliche Autonomie.
Ce sont des enfants qui ont une autonomie incroyable et un équilibre extraordinaire.
Und auf der Mutterseite, wir haben 15-20% postpartale Depression.
Pour les mères, normalement, il y a 25% de dépression postnatale, postpartum.
Und wir haben mit der Bindungsanalyse nennt sich oder dieser
et
Förderung
avec cette méthode d'autonomie ou de créer un lien avant la naissance
0%.
0%.
Wenn man weiß, was das für ein Schicksal ist.
Alors quand on pense quel destin cela représente pour les deux, pour la mère et l'enfant.
Statt 30% Kaiserschnitt, was
au lieu de 30% de césarienne,
10%.
Seulement 10%. Stille, avec cette méthode.
Stillen 94%.
L'allaitement 94%.
Normal 50%.
Et normalement seulement 50%.
Und so weiter und so weiter.
Alors vous voyez, etc., etc.
Das heißt, die Unterstützung der Mutter,
cela veut
die
dire que de soutenir la mère, de renforcer le lien
in ihrem eigenen Potenzial,
dans son propre potentiel,
hat eine ganz segensreiche Wirkung.
A vraiment une influence important, vraiment incroyable.
Leider haben wir da wir haben ja diese Sprachbarriere.
Il y a la barrière de la langue.
Die Bücher sind in Deutsch.
Es wird, parce que beaucoup de livres sont en allemand.
Aber wir haben auch ein Lehrbuch der pränatalen Psychologie.
Il y a un manuel qui a été aussi écrit sur le lien prénatal.
Und das kommt Anfang des Jahres in
et début de l'année prochaine, ce manuel va être édité chez Springer à New York.
Und da sind die Artikel über die Bindungsanalyse, über diese Förderung
là,
der vorgeburtlichen
Mutter-Kind-Beziehung,
über die Anwendung dieser Gesichtspunkte in der Kindertherapie
aussi
und in der Psychotherapie und so weiter.
Comment c'est utilisé dans l'analyse, la psychanalyse des enfants et
also das, da, die, auch über die Kindertherapie. Jetzt einfach Kindertherapie und diese Bindungsanalyse. Ja.
Non, j'avais tout.
Also da liegen ganz große Potenziale drin.
Il y a vraiment un potentiel énorme là-dedans.
Denn wir wissen, dass es viele Gesellschaften gibt.
Nous savons qu'il y a beaucoup de sociétés
wo die Frauen unterdrückt
werden,
die wir hier in Europa auch hatten, noch voll da ist.
Les femmes sont soumises, on va dire, par les hommes, et que ça existe encore dans beaucoup de pays aujourd'hui.
Also in Russland zum Beispiel.
En Russie, par exemple.
Wir haben einen Kongress in Russland gehabt.
Il y a eu un congrès.
Da sind sieben Abtreibungen die Regel.
Il y a sept avortements qui sont la règle sur.
Bis zu 21 Schwangerschaftsunterbrechungen.
Jusqu'à 21 avortements par.
Pro Frau.
Par femme.
Da fragt man sich, was machen die miteinander?
Alors on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? La règle, c'est, je répète, hein, parce que c'est presque incroyable. La règle, c'est donc 7 avortements en moyenne par femme et parfois jusqu'à 21 avortements dans une vie de femme.
Die Begründung, la Schwangerschaftsunterbrechung macht der Staat.
C'est parce que c'est l'État qui fait les interruptions de grossesse.
Die Präservative muss ich selber kaufen.
Les préservatifs, je dois les payer moi-même.
Das ist nicht gelogen. Das ist
et c'était la raison qui a été avancée officiellement dans le Congrès.
Und da sind, und das in den arabischen Gesellschaften sind ähnliche Probleme mit den Beschneidungen.
Et là, il y a bien sûr les difficultés dans les pays arabes avec les exactions.
Und wenn die Mann-Frau-Verhältnisse
les relations entre hommes et femmes sont tellement destructrices,
dann kann keine Demokratie entstehen.
Alors il ne peut pas naître une démocratie de ça.
Darum haben wir in Russland diese, immer noch die Herrscherfiguren.
C'est pour ça qu'en Russie, il y a toujours cette représentation de comme un peu, pas un peu empereur, mais ce qui remplace l'empereur.
Und viele chronische Erkrankungen, das ist jetzt wieder
beaucoup
ein anderes
de maladies chroniques également. C'est un autre domaine.
Haben Wurzeln in
des racines également dans le ressenti prénatal.
Und es gibt ein Buch.
Il y a un livre. Il existe un livre.
Mit Interviews von Müttern von Mördern.
Avec des entretiens de
Mütter von Mördern.
Ah, de mères d'assassins.
Also ich muss sagen, das hat mich geschockt. Alle
c'est un livre qui m'a vraiment choqué moi-même, je dois dire.
Über katastrophale Schwangerschaften, wo sie geschlagen und misshandelt
worden sind. Toutes les grossesses ont été catastrophiques. Il y avait des violences physiques. Elles ont été battues, humiliées.
Also das gar keine positive Verankerung.
Aucun ancrage
in der Mutterbeziehung möglich war.
Était possible par rapport à la relation avec la mère.
Also das sollte eigentlich nur zeigen, wie bedeutsam diese Erlebenszeit ist, wie wichtig es ist, dass wir mehr Verantwortung haben.
Cette période-là est importante et quelle responsabilité nous avons. Oui, toujours au niveau du lien entre la mère et le bébé.
Ja, und dann würde ich hier einfach abschließen, aber eigentlich mehr übergehen zu Fragen oder Kommentaren zu Ihnen.
Je vais donc terminer ici ce que je vous ai raconté et je vous invite à des questionnements et on va progresser à travers vos questions.
Merci beaucoup, Ludwig Janus, excusez-moi. Si vous avez des questions, on peut vous faire passer le micro. Et puis, Monica et Natacha essaieront de retraduire à Ludwig. Donc il y a une question à poser.
Ja, da oben ist. Ja.
Bonjour. J'avais plusieurs questions. La première, c'est à partir de quel âge en prénatal? C'est-à-dire de quel moment de la grossesse vous avez mis en évidence qu'il y avait vraiment un lien entre la mère et l'enfant. Première question.
C'est la première question.
Also von Anfang an.
Alors on peut dire que depuis le début.
Weil auch die Blastozyste.
Parce que même les blastocytes.
Abhängig ist von dem Milieu.
Dépend déjà du milieu qui l'entoure.
Und es gibt Situationen.
Et il y a des situations.
Dass die Mutter gar kein Kind.
Où la mère will oder ne kann veut pas oder avoir d'enfant ist. Ou être trop jeune ou ne
Und
veut
sie,
pas.
Sich der ganze Körper der Mutter dagegen wehrt.
Et que tout le corps de la mère en fait refuse la grossesse.
So dass das Kind ganz schlechte Entwicklungsbedingungen hat.
Et que dès le début l'enfant a des conditions très mauvaises pour son développement.
Und dann das sind dann
ensuite,
auch Kinder, die zu leicht sind.
Il y a aussi des enfants qui sont trop légers par exemple.
Man nennt es im Deutschen auch Mangelgeburten.
On appelle ça des naissances de manque en allemand, je connais pas le terme en français.
Und es ist ja heute möglich, jedenfalls
c'est possible aujourd'hui, en tout cas partiellement,
die realen Bedingungen zu klären.
De clarifier les conditions réelles.
Also jetzt in einem Fall mit einer Patientin, wo das der Fall war.
Par exemple, il a un exemple d'une patiente où ça a été le cas.
Die war vollständig die Mutter unglücklich in der
Vater-Beziehung. Complètement malheureuse dans la relation avec le père de l'enfant.
Und diese Frau hatte, die kam ganz dünn zur Welt.
Elle venait, elle était très très maigre.
Und
elle est arrivée au monde.
Und hat nie in der Welt oder in Beziehungen
dans sa vie, elle n'a jamais pu prendre des racines, jamais créer des racines.
Also sie hat ein Kampfleben geführt.
Elle avait toujours une bataille dans sa vie.
Weil sie immer wieder von Schwächezuständen und
parce que toujours,
Depressionen heimgesucht
toujours elle était, fragile pour, et elle retombait dans des situations de faiblesse.
Das ist die sogenannte Baker-Hypothese.
On appelle ça l'hypothèque Baker.
Der Baker hat
Baker,
ein Engländer.
Un Anglais.
Die Lebensschicksale von Kindern, die zu leicht geboren
il a étudié les destins des enfants qui sont nés trop avec un poids trop faible.
Und das sind die Kinder, die später
et ce sont exactement ces enfants qui plus tard ont développé du diabète ou des infarctus.
Eine chronische Schwäche in dem Organismus haben.
Et qui se sont retrouvés avec des faiblesses chroniques.
Und das ist eine Riesenforschung.
Et ça, c'est une étude énorme.
Das Buch heißt Developmental Origins of Health and Disease. Developmental Origins of, also
entwicklungsbedingte
Ursprünge von Krankheit und Gesundheit.
Oui, les origines des maladies dues au développement prénatal.
Ja.
C'est le nom du livre de cet anglais.
Also das Problem, das wir haben, ist, dass die Forschung völlig dissociiert ist.
La difficulté que nous avons, c'est que cette étude a été complètement dissociée.
Also es gibt die Beobachtung aus der Psychotherapie.
Il y a la psychothérapie
es gibt
d'un côté.
Die Beobachtung aus der Hirnforschung.
Il y a de l'autre côté la neuroscience.
Die synaptischen Verschaltungen im Hirn spiegeln die vorgeburtlichen Bedingungen.
On peut dire que on trouve les reflets somatiques des connexions neuronales au niveau du cerveau de ce qui se passe au
es
niveau prénatal.
Uferlos Stressforschung.
Il existe des études sur le stress
sans fin. Bringen stressempfindliche Kinder zur Welt.
Dans tous les cas, les mères stressées donnent naissance à des enfants stressés.
Es gibt Beobachtungen,
observations de l'épigénétique.
Das heißt, das pränatale Milieu entscheidet darüber, welche Gene exprimiert werden und welche nicht.
Que l'environnement, en fait, l'environnement extérieur dépend le développement génétique du gène.
Das heißt also, wir bekommen
pardon,
in der
ich sage es nochmal richtig, ja? Weil ich habe mich getäuscht. Ach, je corrige. C'est, l'épigénétique, c'est la signification, c'est que l'environnement va déterminer l'expression ou la non-expression du gène. C'est ça que je voulais dire. Voilà.
Ja, also ich wollte noch. Ja, das sind einige Antworten zu dieser Frage, nicht? Also die
alors,
Zeit
sont
ist
réponses
enorm
à
wichtig.
Question.
Wir bekommen nicht nur mit einem Körper zur Welt,
nous
sondern
nous
mit der gesamten Physiologie.
Avec un corps, mais avec une physiologie complète.
Und das nennt man Fetal Programming.
Ah, c'est la programmation fœtale.
Also wir kriegen eine Körperlichkeit, aber auch eine Emotionalität.
Nous avons une corporalité, mais aussi une émotionnalité.
Eine Widerspiegelung der Emotionalität der Mutter und des Paares.
Qui reflète l'émotionnalité de la mère, mais aussi du couple.
Also darum ungewollte Kinder.
C'est pour cela que des enfants qui n'ont pas été désirés.
Ungewolltheit ist ein ganz großes Problem.
C'est un grand problème de ne pas avoir été désiré.
Das kann offen sein oder auch verdeckt sein.
Ça peut être tout à fait ouvert, mais ça peut être aussi quelque chose qui est caché.
Und da gibt es auch empirische Untersuchungen dazu.
Et là aussi, il y a des expériences empiriques.
Dass dann Kriminalität häufiger ist, dass
que la criminalité est beaucoup plus fréquente lorsque l'enfant n'a pas été désiré.
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich zu lange geantwortet.
Alors, la réponse a été un peu longue, donc s'il y a d'autres questions.
Ça répond en partie à la deuxième question qui était finalement, en tant que père, la place du père dans cette relation avec l'enfant dans la période prénatale. Donc vous avez évoqué déjà des pistes. Hein. Mais est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que finalement, est-ce qu'il y a d'autres...
Der Vater... Es ist die Paarbeziehung, die das Wichtige ist.
Le père, il a surtout une importance dans le couple, dans la relation du couple par
wenn
rapport à l'enfant.
Wenn die Mutter im Vater einen Rückhalt hat,
si la mère est soutenue par le père,
dann kann,
alors,
kann der, ist der Raum für die Entwicklung des Kindes da.
L'espace pour le développement de l'enfant est posé.
Ja, und die Kinder bekommen alles, den Part, der Vater wird ja jetzt, also dass der Vater mit dem Kind vor der Geburt spricht.
Que
und
le
so
père parle Präsent. Avec l'enfant avant la naissance.
Ja.
C'est aussi quelque chose qu'on fait aujourd'hui et c'est très bien.
Ja.
Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de l'épigénétique. Je me suis beaucoup intéressée aux travaux de Bruce Lipton. Et je me posais la question par rapport à ce processus d'apprentissage pour lui qui est clairement défini avant l'âge de 7 ans, où tout se joue finalement avant l'âge de 7 ans par des mécanismes qui sont liés... Peut-être je vais trop vite.
Vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît.
Oui, oui, je peux recommencer. Je disais que j'aimais beaucoup en fait l'approche de Bruce Lipton. Je ne sais pas si vous connaissez.
Yeah.
Sur le travail de l'épigénétique. Et donc, ma question, on sait que tout se joue avant 7 ans, que tout s'apprend par des mécanismes qui sont la répétition et puis cette forme d'hypnose que l'enfant développe au contact de ses parents et de la cellule familiale. Et en fait, ma question, elle se réfère à l'hypnose. Qu'est-ce qui se passe avant que l'on arrive dans le monde ? Par rapport à l'hypnose et par rapport à tous ces mécanismes de répétition que la mère et que le père aussi d'ailleurs peuvent avoir au contact de l'enfant, qu'est-ce qui se passe dans le, par rapport au fœtus avec l'hypnose, avec cette épigénétique ? Merci.
Ja, das würde ja ganz davon abhängen, welchen Zweck die Hypnose hat. Also es gibt ja das Hypnobirthing.
Alors ça dépend vraiment en fait de l'intention qu'on va mettre, du but qui va être derrière une hypnose.
Und das,
il existe l'hypnonaissance.
Das Hypnobirthing hilft der Mutter
in so eine Art
Trance,
à entrer dans une transe.
vor allem aus ihrer kognitiven
Orientierung heraus.
Also die Geburt ist etwas archaisches, elementares.
Dans ce cas, la naissance est quelque chose d'archaïque, archaïque. Ja. Oui.
Und da kann das Hypnobirthing hilfreich sein.
Et l'hypnonaissance peut aider vraiment pour reconnecter au corps plutôt que de partir dans le
mental.
Est-ce que c'était votre question? Oui, l'épigénétique, on a compris. Mais... Oui. Ah. Donc pas par rapport à l'hypnose, juste l'épigénétique.
Ah.
Ja.
Also ich habe es auch so verstanden, sie fragt, was für einen epigenetischen Einfluss auf das Kind vor der Geburt, was es da gibt an epigenetischen Einfluss.
Ja, also da würde ich sagen, das ist eine komplexe Frage.
C'est une question très complexe.
Und es macht, also das würde jetzt hier den Rahmen überschreiten.
Ich pense que ça dépasserait le cadre d'ici.
Die Hauptaussage ist eben, dass die Genexpression von dem Milieu beeinflusst wird.
Ce qui est important de retenir, en tout cas pour aujourd'hui, c'est que l'épigénétique a une importance sur le développement du.
Aber die Forschung ist ganz im Anfang und Detailaussagen sind noch nicht möglich.
Alors en fait, ce qu'il veut dire, c'est que tout ce qui concerne l'épigénétique, ce qu'on sait aujourd'hui, mais on n'a pas très avancé dans cette recherche-là, c'est que le milieu à l'extérieur du bébé, donc du bébé dans le ventre, décide sur l'épigénétique. Mais la recherche par rapport à ce sujet n'est pas très avancée. Donc c'est ce qu'il peut dire là dans le cadre actuel, ce qu'on sait.
Oui, donc c'est une question qu'on se pose.
Bonsoir. On sait qu'il y a beaucoup de conceptions gemellaires dont la mère n'a pas connaissance et un des fœtus disparaît sans que la mère en ait conscience. Quelles sont les incidences sur le fœtus qui reste ?
Ohne dass die Mutter weiß, dass der Zwilling abgegangen ist, was sind die Konsequenzen für den Zwilling, der im Bauch überlebt?
Also der große Vorteil, den wir heute haben, dass wir das reflektieren können.
C'est que c'est quelque chose que nous pouvons voir, nous pouvons le refléter.
Also so ein verlorener Zwilling kann, da gibt es sehr viele Bücher jetzt dazu.
Un jumeau perdu
kann große, also Verlustängste in Beziehung
peut occasionner des grandes peurs d'abandon. De perte.
Und dass ich quasi an den Beziehungen klammere,
je vais peut-être m'accrocher à des relations.
Es können auch Ängste sein.
Ça peut être des peurs.
Also es gibt da heutige, also ich weiß jetzt hier, es gibt etliche Bücher dazu,
il y a vraiment sehr viel beaucoup de livres sur ce thème-là.
Das ist ein reales Problem, das aber in der Psychoanalyse oder etablierten Psychoanalyse so gut wie keine Rolle spielt.
En fait, il y a beaucoup de bouquins aujourd'hui au sujet du jumeau perdu. Donc on trouve ça maintenant beaucoup, mais en fait, c'est encore très peu connu dans le public et dans les psychothérapies, ça joue encore très peu de rôle. Mais le phénomène est bien connu et il y a de plus en plus de livres.
Also,
der Einfluss auf das Leben, willst du darüber noch mehr sagen?
Nein, ich habe ja gesagt, Verlustängste zum Beispiel, oder man kann es heute reflektieren.
Donc, surtout, il y a des peurs de perte dans la vie réelle de quelqu'un.
Und man kann Fallgeschichten lesen in diesen Büchern und kann verschauen, wie könnte das mit mir zusammenhängen.
Donc, si on soupçonne qu'on a été à plusieurs dans le ventre, qu'on a perdu un jumeau, on peut aujourd'hui lire des histoires là-dessus, des personnes qui font des témoignages là-dessus, et faire des réflexions par rapport à ce qu'on lit, où il y a un rapport avec mon vécu personnel.
Also das wäre jetzt das typische Beispiel, der Verlust geschieht auf der Ebene von Mittelhirngefühlen, vorsprachlichen Gefühlen.
Alors en fait, c'est une expérience qui est avant que le langage se développe chez un être humain, et donc ce qu'il dit, c'est que c'est au niveau du cerveau limbique que ça se passe, et c'est inconscient la plupart du temps.
Und ich habe dauernd das Gefühl, mir geht jemand verloren.
Et la plupart du temps dans la vie quotidienne, j'ai l'impression que je perds quelqu'un.
Aber die pränatale Psychologie kann diesen Zusammenhang herstellen, ich kann das reflektieren und dadurch kann die Zeitachse wiederhergestellt werden. Es ist Vergangenheit, nicht der jetzige Partner geht verloren, aber ich habe das erlebt und das muss betrauert werden.
Alors à travers la psychologie prénatale, aujourd'hui on a la possibilité, comme on a de plus en plus de connaissances de ce sujet-là, qu'on met un lien entre ce qui s'est passé dans le passé, donc c'est vraiment le passé, ce n'est pas la vie réelle, et on fait des réflexions là-dessus, je peux remettre la vraie réalité. Donc je suis dans quelque chose qui s'est passé prénatal, c'est inconscient, en le passant au conscient, en lisant ce qui est écrit dans les livres ou les témoignages, je fais quelque part une actualisation de la réalité. Mm-hmm.
Oui, j'aurais aimé vous demander s'il y avait eu des études sur la psychologie des enfants qui sont nés de grossesse avec assistance médicale comme fécondation in vitro ou d'ovules ou de spermatozoïdes congelés, etc., etc. Ce sont des grossesses qui sont souvent multiples avec des fœtus éliminés par l'homme.
Also darüber gibt es nur anekdotische Beobachtungen, noch keine systematische.
Jusqu'à maintenant, il n'y a que des observations anecdotiques à ce sujet-là. Il n'y a pas encore une recherche systématique à ce sujet.
Und das sind ja Kinder, die sehr gewollt sind.
Ce sont en fait des enfants qui ont été très voulus par les parents, très désirés.
Eine enorme Zuwendung, Erfahrung, Unterstützung.
Donc il y a un grand encouragement pour ces enfants-là dans l'intention.
Also nach meinen wenigen Eindrücken sind es aber auch Kinder, die innerlich sehr unsicher sind und sich so eine Labilität haben.
D'après moi, dans les peu d'observations que j'ai pu faire, ces enfants sont dans la vie très labile, fragile.
Also man sollte das
en sécurité.
Wir haben die Situation, dass die pränatale Psychologie eine völlige Außenseiterwissenschaft ist.
En fait, il faut se rendre compte que la psychologie prénatale est vraiment en marge de la recherche qui est acceptée publiquement.
Und die akademische Psychologie müsste die Forschung machen.
Et en fait, la psychologie qui est académique, donc officielle, devrait faire la recherche là-dessus. Mais ce n'est pas le cas actuellement.
Bonsoir. Existe-t-il des études sur le lien entre une mère et son bébé quand il est dans le ventre de sa mère? Mais je pense à un cas, une jeune femme qui attendait un bébé. Son bébé était en grande souffrance et elle a ressenti des angoisses terribles. et parce qu'elle a ressenti ses angoisses, elle a pu demander une assistance et elle a obtenu qu'on fasse naître son bébé avant terme. Et donc, y a-t-il des études faites qui montrent que le fœtus, c'est dans l'autre sens, transmet des informations à sa mère quand il est en souffrance fœtale?
Also nicht, dass ich wüsste.
Pas que je sache qu'il y ait des études.
Sie müssen denken. Ja, Sie müssen denken. Die akademische Psychologie negiert alle diese Zusammenhänge.
Nie complètement tous ces relations.
Darum gibt es keine Forschung.
C'est pour ça qu'il n'y a pas d'études officielles.
Es gibt nur Forschung, also Stressforschung, Hirnforschung, Epigenetik, Psychoprogramm, was man messen kann.
Sur la neurologie, sur les la science.
Es gibt nur Forschung zu den Aspekten, die man messen kann.
Oui, seulement ce qui est mesurable, au fait.
Aber die Erlebnisdimension, die Sie fragen,
mais tout ce qui est de l'ordre du vécu, il n'y a pas d'études.
Nur Erfahrungsberichte.
Seulement,
c'est seulement, das wüsste ich nicht.
Il peut y avoir des observations du vécu, mais pas de mesures.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la psychologie prénatale, elle est vraiment en marge. On a beaucoup de connaissances à travers des témoignages, mais la recherche, vraiment la recherche scientifique là-dessus, comme c'est nié encore par beaucoup de scientifiques, n'existe quasiment pas. Mais je dois me corriger.
Wir haben ja die erwähnte Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung.
Nous parlions de l'encouragement de la relation entre la mère et l'enfant dans le ventre de la mère. Et là, nous avons beaucoup d'expérience.
Also Berichte, wie Mütter das erleben.
Il y a des témoignages des mamans.
Und wie sich das Erleben des Kindes in der Mutter spiegelt.
Et comment la vie de l'enfant fait miroir à l'intérieur de la mère.
Und da gibt es sehr wohl solche Beobachtungen, die Sie benennen.
Et là, je me suis corrigée, il y a des observations, je me rappelle des observations comme vous les avez nommées.
Aber es ist sehr, darum ist es eine Sache sehr wichtig, wenn die Mutter
Stress hat. C'est pour ça qu'il y a une chose qui est très importante, quand la mère a du stress pendant la grossesse.
Wegen eines beruflichen Problems.
Parce qu'elle a, par exemple, un problème professionnel.
Dass sie ihrem Kind innerlich mitteilt, ich habe Stress, das hat aber nichts mit dir zu tun.
Elle communique, also, donc c'est très important, si elle a du stress pendant la grossesse, qu'elle communique à son enfant, j'ai du stress, mais il n'y a pas de relation avec toi.
Weil das Kind sonst die Mutter retten will oder leidet mit.
Si la mère ne le fait pas, l'enfant à l'intérieur, donc du ventre de la maman, décide qu'il veut sauver la maman ou souffre en même temps que la maman.
Und diese inneren Dialoge, die erscheinen ein Stück fantastisch.
Ces dialogues-là apparaissent un peu fantastiques.
Aber es gibt so viele ähnliche Beobachtungen, dass es so zu sein scheint.
Mais il y a beaucoup d'observations empiriques dans ce contexte-là, dans ce sens-là.
Also, dass es tiefe Verstehensprozesse vor der Geburt gibt.
Donc, il y a des compréhensions très profondes entre la maman et l'enfant avant la naissance.
Mm. Yeah.
Alors, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, on est presque tous des prématurés, puisqu'on est... Voilà, on n'est né que à 9 mois. Et qu'en est-il des prématurés? Moi, j'ai une fille qui est née à 6 mois. Je vois, voilà, quelles sont peut-être ses difficultés dans la vie aujourd'hui pour se positionner ou pour évoluer. Est-ce que ça pourrait avoir un lien?
Ihre Mutter ist mit 6 Monaten auf die Welt gekommen. Vous pouvez répéter, donc votre enfant est né 6 mois, à 6 mois?
À 6 mois. Et on voit quelles difficultés ils ont, comment ils doivent se battre. Moi, j'ai toujours été absolument émerveillée par les équipes qui entourent ces enfants, par la technologie, même si elle est un peu agressive, ces bulles, ces machines. Et du coup, je me suis toujours demandé comment ces enfants, qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là, et est-ce que c'est une force ou une faiblesse, quoi.
Selbst war sehr fasziniert davon, wie die ganzen Menschen da um sie herum damit umgegangen sind und so gekämpft haben, dass ihre Tochter überlebt. Mhm. Aber sie hat sich immer gefragt, wie ihre Tochter das erleben konnte, dass sie da immer in so einer Box war. Oder so. Mhm. Eigentlich ein bisschen was du auch vorhin schon angedeutet hast.
Also es sind zwei ganz verschiedene Sachen. Diese sogenannte physiologische Frühgeburtlichkeit betrifft uns alle.
Donc, il y a deux choses différentes. Cette que nous sommes prématurés physiologiquement, ça nous concerne nous tous en tant qu'être humain.
Das hat ein Schweizer Biologe Portmann entdeckt und beschrieben.
C'est un
das
biologue
ist allgemein akzeptiert.
Suisse qui s'appelle Portmann. Qui a découvert ça et qui l'a décrit, et ça, c'est accepté publiquement.
Und das ist, worüber ich gesprochen habe, sind die psychologischen Implikationen. Das ist bisher wenig reflektiert worden.
Ce que je moi disais au début de mon discours ce soir, c'est les implications que ça a au niveau culturel et au niveau individuel. Et là, on a très peu parlé jusqu'à maintenant.
Die reale Frühgeburt jetzt ist
par
ein
contre,
anderes Feld.
C'est une deuxième chose, la réelle naissance prématurée à 6 mois, comme vous le décrivez, c'est une autre chose.
Und das ist in den 70er Jahren, früher sind solche Frühgeburten gestorben.
Avant, les bébés à cet âge-là étaient morts, ils n'ont pas pu survivre.
Und man hat dann die Intensivmedizin auf die Frühgeburtsmedizin übertragen. Man hat ihnen, die können nicht atmen, dann hat man sie beatmet.
Après, il y avait la médecine intensive qui s'est développée, et donc si les bébés ne pouvaient pas, par exemple, respirer par eux-mêmes, on les a fait respirer, on les a aidés.
Und anderes.
Assistance pour respirer.
Das ist anfangs sehr mechanisch erfolgt in diesen Inkubatoren.
Au niveau, c'était très mécanique dans ces incubations.
Aber in den 80er, in den 80er Jahren
mais dans les années 80,
hat man verstanden, dass diese früh geborenen Kinder den Kontakt zu der Mutter oder zum Vater brauchen.
On a commencé à comprendre que ces enfants prématurés avaient besoin du contact réel de la peau avec la maman et, ou leur papa.
Und das haben wir in Deutschland mitgestaltet. Das ist eine völlige Veränderung im Umgang mit dem frühgeborenen Kind, dass man ihm einen Entwicklungsraum auch gibt,
eine seelische Entwicklung. Et c'est à partir de là que aussi en Allemagne on a aidé à cette évolution-là, qu'on a offert au bébé un espace de développement, d'évolution personnelle.
Und aber auch da, wenn würde ich später, wenn ich so ein Schicksal hatte, dass ich zu früh geboren war.
Quand j'avais donc moi un destin que je suis né à ce point-là prématurément.
Dann ist unsere große Chance, dass wir das heute reflektieren können.
Là pareil, aujourd'hui, on a la chance de faire des réflexions là-dessus.
Also ich kenne eine Geschichte von einer jungen Frau.
Une histoire d'une jeune femme.
Wenn sie sich verliebt hat, dann hat sie den Mann immer durch einen Spiegel, durch eine Wand gesehen, durch so ein Spiegelglas.
Elle voyait l'homme où elle était amoureuse à travers une sorte de mur, miroir.
Und dann hat sie verstanden, das ist das Spiegelglas von dem Inkubator.
Et là, elle comprenait que c'était le miroir de l'incubateur.
Und das konnte das auseinandernehmen. Also eine Reflexion der Bedingungen kann es ermöglichen, den Zusammenhang aufzulösen oder eben andere.
Ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de témoignages par rapport à ces vécus-là, quand on comprend la relation, par exemple, de cette femme dont il parle, de tomber amoureux
et de voir l'homme, de lui qu'elle est amoureuse à travers une sorte de miroir, et de se dire, donc, moi, j'ai eu ça en tant que bébé dans l'incubateur. Si on peut faire aujourd'hui des réflexions comme ça, on peut quelque part créer un lien à la réalité et le guérir psychologiquement.
Ein ganz großes Problem ist die Übertechnisierung in der Geburtshilfe.
Un très grand problème, c'est qu'il y a trop de technologies aujourd'hui à la naissance et dans le soutien à la naissance.
Wir haben 30% Kaiserschnittgeburten.
Nous avons 30% de césariennes.
30% andere Interventionen.
30% d'autres interventions technologiques.
Und 20% noch medikamentöse Interventionen. Wir haben nur 20% natürliche Geburten.
Et 20% où il y a des médicaments. Ce qui reste sont donc 20%, seulement 20% de naissances naturelles.
Und in der pränatalen Psychologie kann man die Folgen geburtshilflicher Eingriffe heute genau erfassen.
Aujourd'hui, dans la psychologie prénatale, on peut très bien voir les conséquences de ce soutien technologique à la naissance.
Also es gibt Artikel und Untersuchungen dazu.
Il y a beaucoup d'articles qui ont été décrits.
Auch das kann man reflektieren.
Mais là aussi, à nouveau, on peut faire des réflexions là-dessus, si c'est arrivé à nous.
Das ist alles wahnsinnig
des raisonnements, voilà, ça c'est le bon mot.
Wahnsinnig individuell.
Entschuldigung.
Es ist alles sehr individuell.
Tout ça, c'est très personnel, individuel.
Aber die Kaiserschnittgeburt hat zum Beispiel die Charakteristik, dass ich nicht aus eigener Kraft mich zur Welt bringe.
Par exemple, la caractéristique de césarienne, c'est que je ne prends pas ma force à moi pour naître.
Keine Heldenfahrt mache.
Donc, je n'ai pas l'aventure d'un héros pour sortir du ventre de ma maman.
Innerhalb von 3 Minuten werde ich irgendwie herausgehoben.
Mais pendant 3 minutes, seulement 3 minutes, quelqu'un me sort du ventre de la maman.
Und diese Geburt, die Geburtserfahrung ist eine Erfahrung, es gibt von einem Herrn Goethe, also wer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. Ich weiß nicht, ob man das...
Oh Gott, oh Gott.
Also wer sich anstrengt, der wird Erfolg haben.
Qui se donne de la peine sera libéré. C'est Goethe qui disait ça.
Diese Erfahrung, wenn ich mich anstrenge, habe ich Erfolg. Die hat der Kaiserschnittgeborene nicht.
Donc cette expérience, si je me donne la peine, si je me force à réussir, je vais réussir. Celui qui a vécu une césarienne, il ne l'a pas.
Also ich hatte einen Patienten, der dann während des Examens auf einmal nicht mehr lernte.
J'avais un patient qui pendant un examen n'apprenait plus, arrêtait d'apprendre. Il devenait complètement passif.
Und dann fiel durch das Examen.
Et donc, il ratait l'examen.
Und dann kam zu mir
il venait chez moi.
Ich habe den Zusammenhang verstanden, dass er erwartet, der Professor würde ihm das abnehmen.
Et quand il me racontait son histoire, je comprenais le contexte. Il attendait quelque part que le professeur le libérait, qu'il le ferait à sa place.
Und dann habe ich die Mutter dazu gebeten.
J'ai demandé de la mère de venir aussi.
Die hatte ein Tagebuch geschrieben.
Elle avait un journal.
Und hat genau ihm beschrieben, ihm jetzt als Erwachsenen, was ihm als Baby da passiert war.
Et dans son journal, elle avait décrit pour son fils ce qui lui était arrivé à la naissance.
Und ich sehe ihn noch vor mir sitzen, wie mit großen Augen der Mutter lauscht.
Je le vois encore assis devant moi, en écoutant avec des grands yeux ce que lisait sa mère.
Und dann konnte die Wiederholung, die in der Prüfung gemacht hat, durchschauen.
Et donc là, un raisonnement de la part de cet homme, il comprenait la répétition qu'il faisait pendant cet examen.
Und hat seine Prüfung gemacht und
là,
hat
il gestanden. A fait son examen, il ne ratait plus, il a réussi.
Also manchmal, unter günstigen Bedingungen,
si
kann
tout va bien,
eine reine Aufklärung über diese Zusammenhänge, Aha-Erlebnisse machen, dass der Betreffende dann davon frei wird.
Si tout va bien, le simple la simple compréhension de ce qui s'est passé peut libérer une répétition comme ça.
Und eigentlich ist es eine Frauensache.
Et en fait, d'après moi, c'est une affaire de femmes.
Des Und femmes. Dass Frauen sich, was ich, versammeln und sagen, wir que brauchen eine andere Geburtshilfe.
Que les femmes se réunissent, se mettent ensemble pour dire, nous avons besoin des, d'un soutien de naissance qui est différent de ce qu'il y a actuellement.
Und gerade die Frauen, die mit der Geburt die schwierige Erfahrung gemacht haben, müssten eigentlich
surtout les femmes qui ont des mauvaises expériences de ce soutien technique de leur propre naissance à leurs enfants devraient se réunir pour se battre pour une autre façon de, d'accompagner des naissances.
Ein Zusammenhang ist ein Drittel der diese sehr technischen Geburten sind für die betreffende Frau, für das Kind auch, aber die Frau auch eigentlich traumatisch. Und die Frau braucht, die sind traumatisch. Diese Geburten haben traumatische Aspekte, ein Drittel.
Un tiers de ces naissances a des aspects traumatisants.
Man bräuchte eigentlich Unterstützung, das zu verarbeiten.
Donc on aurait besoin, si on a vécu une naissance, donner naissance à son enfant de cette façon-là, il faudrait après un soutien pour digérer cette mauvaise expérience.
In Deutschland gibt es 2-3 Hebammen, die dafür eine Hilfe anbieten.
Il y a en Allemagne seulement 2-3 sages-femmes qui offrent une aide dans ce sens-là.
Aber es sind eigentlich 200.000 Frauen, die da Hilfe bräuchten.
Mais il y a à peu près 200.000 femmes qui auraient besoin d'une aide dans ce sens-là.
Also da bleibt noch ganz viel zu tun.
Il y a beaucoup à faire dans ce contexte.
Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist.
Je ne sais pas comment c'est en France. Pas mieux, hein?
Alors, vous parliez de l'incidence de l'état émotionnel de la mère pendant sa grossesse. Je suis convaincue de la manière dont les interprétations...
Vous pourriez parler plus fort ? Voilà, on comprend ici très mauvais okay. Vos questions. Excusez-nous.
Non, je vous en prie. Aujourd'hui, comment explique-t-on le passage de l'information de la mère à l'enfant pendant la vie intra-utérine ? Par l'imprégnation hormonale, par quoi ?
Das Kind der Mutter in der pränatalen Zeit mit der Mutter kommunizieren kann. Wie erklärt man diese Kommunikation? Wäre das hormonal oder bedingt oder nicht?
Also das ist zum Teil hormonal.
En partie, c'est la communication est à travers les hormones.
Und das ist ein intuitives Spüren, was wir aber, also man kennt die Kanäle nicht im Einzelnen.
On ne connaît pas tous les canaux de communication
aber wie
en
wir
particulier.
Auch nach der Geburt spüren,
mais comme on ressent après la naissance,
ob jemand uns zugeneigt ist oder aversiv
si
ist.
Quelqu'un nous est bienveillant ou pas.
Und das spürt auch jedes Tier.
Et même chaque animal le ressent.
Und also es ist eine Art intuitives Verstehen, wo wir die Einzelheiten noch nicht
kennen. C'est une compréhension intuitive, mais nous ne connaissons pas encore tous les détails.
Aber in dieser Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung.
Mais dans l'encouragement de la relation prénatale entre la maman et le bébé.
Werden Beobachtungen gemacht, dass es eine sehr differenzierte gegenseitige Wahrnehmung gibt.
Nous avons noté que c'est très différencié la
Alors, en fait, on voit très clairement que par l'expérience, on voit qu'il y a cette communication différenciée entre la mère et l'enfant. Mais par contre, on ne maîtrise pas les mécanismes, on ne comprend pas très bien comment ça se passe.
Encore une question ?
Oui, encore
la
une dernière question. Moi, j'ai une question un peu plus précise concernant les problèmes que peuvent, en tout cas, engendrer on va dire, un environnement prénatal qui est peut-être, on va dire, malsain pour un enfant, justement, quel type, j'aimerais savoir, de problèmes les bébés peuvent rencontrer à la naissance suite à un vécu familial, un conflit familial, justement, vécu par la mère. Est-ce que, juste...
Je vais essayer de traduire, s'il vous plaît.
Alors, je frage, was, ob's konkrete Erfahrungen gibt, was passiert, wenn ein Baby auf die Welt kommt und es heftige familiäre Konflikte gibt.
Oui, continuez, s'il vous plaît.
En fait, quel type de problème peut rencontrer les bébés lorsque la mère est en train de vivre un conflit familial? Et justement, je pense à des angoisses d'abandon, à des échecs de développement précoce, tout ce qui est début d'autisme, etc.
Donc l'enfant dans le ventre souffre avec la maman.
Und darum ist es so wichtig, dass die Mutter sagt,
et c'est pour ça c'est important que la mère dise,
ich habe Probleme mit meiner Familie.
Qu'elle dise à son bébé dans le ventre, j'ai actuellement des problèmes avec ma famille.
Aber nicht mit dir.
Mais je n'ai pas de problème avec toi.
Dass es versucht, die Beziehung zum Kind zu schützen.
Elle essaie de protéger la relation qu'elle a avec son bébé dans le ventre.
Und an die Verantwortung der Familienmitglieder zu appellieren, dass sie den Streit verschieben würden.
Et dans le meilleur des cas, elle fait un appel à sa famille pendant sa grossesse que le conflit sera déplacé à plus tard quelque part.
Weil das Kind in den ersten anderthalb Lebensjahren unfertig ist.
Parce que l'enfant dans les premières dans la première année et demie, l'enfant n'est pas est prématuré, donc il n'est pas prêt pour vraiment vivre.
Und braucht eine Art Co-Regulation durch die Mutter oder durch den Vater oder die Familie.
Donc pendant ce temps-là, surtout, il a besoin d'une co-régulation qui est faite par la mère ou le père ou la famille pour bien se développer.
Also, das wäre eben, dass man in der Schule lernt, wie bedeutsam und wie verletzlich diese Zeit ist und wie wichtig Frauen sind.
Dans les meilleurs cas, à l'école, on apprendrait déjà à quel point cette période-là est importante pour un enfant et aussi le soutien à travers la mère ou le père est tellement important que ça soit enseigné à l'école et que tout le monde grandisse avec ça avant de mettre un enfant soi-même au monde.
Et que la mère sich aus dem Streit der Familie zurückzieht und sagt, macht euren Streit. Alleine, ich muss mich um mein Kind.
Et avec ces connaissances-là, une mère pourrait se retirer donc de sa famille et du conflit familial pour leur dire, ben, vous vous occupez de vos conflits, mais moi, je me mets à l'extérieur pour protéger mon enfant.
Also das machen sogar Affenmütter.
Même des mamans de singes le font.
Wenn sie schwanger sind und wenn sie ein kleines Kind haben, ziehen sie sich aus dem üblichen sozialen Streitereien zurück.
On a observé chez des mamans de singes que quand elles sont une grossesse, elles se retirent de quelque part de la société et de tous les querelles qu'il y a entre les autres singes.
Weil jetzt ihr Beispiel,
dass si en prenant votre exemple,
sonst an die Mutter gebunden bleibt.
Sinon le bébé reste attaché à la maman.
Wenn die Mutter in Not ist, versucht das Kind die Mutter zu retten.
On a observé que si la maman est en danger, l'enfant essaye de sauver sa maman.
Und die große Leistung in der Beziehung zur Mutter ist die Transformation oder auch die Trennung. Ja?
Sag mir das noch.
Die große Leistung in der Mutter-Kind-Beziehung ist die Individuation, die Trennung auch.
Donc, ce qui est important pour réussir, alors, il faut arriver que l'enfant puisse se séparer de la maman. Donc ça, c'est vraiment un devoir. C'est très important qu'ils réussissent à se séparer.
Die Mütter sind eigentlich Großmeister der Transformation.
Les mamans sont des maîtres de la transformation de leur enfant.
Sie lassen das Kind aus dem aus ihrem Mutterleib heraus.
Ils acceptent que l'enfant sort de leur ventre.
Sie stillen es ab.
Ils
l'allaitent.
Sie lassen es in den Kindergarten gehen und.
Ils arrêtent aussi l'allaitement. Ils arrêtent l'allaitement. Après, il va aller à la crèche et au jardin d'enfants et tout ça. Donc, chaque fois, la maman accompagne une étape et permet la transformation et la séparation de son enfant.
Das ist eine, meine ich, eine große weibliche Kraft.
C'est une très grande force féminine.
Veränderungen mitzutragen.
D'accepter des transformations chez son enfant.
Männer, die alles in Kontrolle halten wollen, sich da schwerer tun.
Pendant que les hommes qui ont plutôt une tendance de garder le contrôle ont plus du mal à accompagner les enfants dans ce changement.
Und diese weibliche Kraft wird ja in unserer Gesellschaft dringend gebraucht, weil alles in Veränderung ist et und dass man das positiv nehmen kann.
Comme actuellement dans notre société tout est en transformation, nous avons besoin de cette force féminine pour qu'on puisse vivre ces changements là et ces transformations là de façon positive.
Merci beaucoup. Merci de vous avoir venu aujourd'hui. Pour ceux qui font l'atelier demain, puisqu'il y a un atelier sur la journée, on va demander aussi à Ludwig s'il peut nous préciser s'il y a des exercices ou pas, comment ça va se dérouler.
Also das Programm morgen, das Programm morgen steht auf dem Flyer.
Alors le programme de demain, vous pouvez le trouver, parce que demain c'est une journée d'atelier pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous trouvez le programme sur le flyer, le dépliant.
Es geht um,
il va s'agir.
Es geht um die Geschichte der,
de l'histoire
prénatale-psychologie.
De la psychologie prénatale.
Es geht um die Erscheinungsweisen.
On va parler aussi
von frühen Erfahrungen in den therapeutischen Settings. Also wie diese frühen unverarbeiteten Erfahrungen in der psychotherapeutischen Situation auftauchen. Wie
comment
man mit ihnen
comment
umgeht.
En fait on transpose ces expériences prénatales dans la psychanalyse plus tard? Comment on les insère, en fait?
Und dann die kulturpsychologische Verarbeitung von frühen Erfahrungen.
Et puis aussi sur les incidences culturelles au niveau de la psychologie, de ces expériences prénatales.
Und dann die Einzelheiten zu dieser
et les particularités,
Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung.
Par rapport à cette relation entre la mère et l'enfant, comme on l'a abordé tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des Übungen?
Ja, es gibt
il y aura
ein Stück weit.
Il y aura
eine Fantasiereise.
Merci. Il y aura un voyage, un exercice de voyage fantastique, on va de fantaisiste.
Also ich würde das ganze Seminar als eine Übung bezeichnen, sich auf diese kollektivpsychologische
Reise
einzulassen.
En fait, c'est un grand exercice.
En fait, si vous voulez venir demain à ce workshop, tout ce qui est prévu par Ludwig Janus, c'est un exercice pour vous-même. Donc, c'est un voyage d'accepter d'entrer dans ce monde prénatal, de la psychologie prénatale, et de voir à quel point il y a un lien avec vous-même. Comme la psychologie prénatale n'a pas une actualité dans notre recherche, vous avez peu de chances de faire ça. Donc, c'est une forme d'exercice pour vous-même de vous laisser entrer dans ce monde de psychologie prénatale.
Und ich meine, dass das mit der pränatalen Psychologie kann man viele kulturelle Phänomene wie Kriege und natürlich auch religiöse Vorstellungen und soziale Gegensätze verstehen. Das ist eine neue Sicht, das ist eine Erfahrung und innere Erweiterung.
Alors le grand horizon qu'a Ludwig Janus, c'est qu'il y a une compréhension de nos phénomènes culturels, par exemple pourquoi il y a des guerres, tout ce qui concerne nos religions et beaucoup de phénomènes culturels qu'on peut aujourd'hui expliquer par le contexte prénatal et par les hallucinations que nous apportons de notre vie prénatale. Donc moi, je ne connais personne d'autre qui peut autant faire ces liens que Ludwig Janus.
Mais ce n'est pas
Une psychothérapie pour vous demain, si vous venez.
Das ist nicht möglich in einem
C'est plutôt une expérience de vie.
C'est une expérience de vie et de vraiment de lien avec ce monde prénatal.
Okay. Yeah. Merci beaucoup, Ludwig. Pour ceux qui le souhaitent, il reste quelques livres de l'introduction à la psychologie périnatale que nous vendons là à l'extérieur. Donc, si vous voulez en acheter, c'est le moment. Et puis, on va remercier infiniment Ludwig Janus d'être venu ici ce soir. Et puis on remercie aussi ces deux traductrices, Monica et Natacha. Merci.